VOA Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Coup de théâtre aux îles Maldives, archipel de l'océan Indien au sud-est de l'Inde. L'homme fort du pays, Abdoulaye Amine, a reconnu ce lundi sa défaite surprise à l'élection présidentielle d'hier face au candidat de la coalition de l'opposition, Ibrahim Mohamed Soli. Les citoyens des Maldives ont décidé ce qu'ils souhaitent. « J'accepte les résultats d'hier », a déclaré Abdoulaye Amine, qui a mené une féroce répression de toute dissidence et muselé la société civile depuis son arrivée au pouvoir en 2013. Lors de son allocution télévisée après une nuit de suspense, le président Amine a dit avoir rencontré et félicité son rival. « J'assurerai une transition en douceur », a ajouté le chef de l'État, qui quittera son poste le 17 novembre au terme de son mandat. Contre toute attente, le challenger Ibrahim Mohamed Soli, peu connu des électeurs, a obtenu dimanche 58,3% des voix selon des résultats provisoires de la commission électorale des Maldives. Afrique maintenant, en Égypte, la Cour de cassation égyptienne a confirmé ce lundi la condamnation à la peine capitale prononcée à l'encontre de 20 islamiste reconnu coupable du meurtre de 13 policiers lors des violences qui avaient suivi la destitution de l'ancien président Mohamed Morsi en 2013. Selon un responsable judiciaire, le verdict est définitif et ne peut faire l'objet d'aucun autre appel. Afrique de l'Ouest, 12 membres d'équipage d'un navire battant pavillon suisse ont été enlevés ce week-end au large du Nigeria. L'information a été confirmée par le porte-parole de la compagnie suisse de transport maritime, Maersk Shipping. Le point avec Eric Maniakiza.
Selon le communiqué de l'armateur suisse rendu public hier, un groupe de pirates a réussi à monter sur le pont du Glarus, se servant de hautes échelles et ont coupé les barbelés de protection. Après avoir détruit une grande partie de l'équipement de communication sur le navire, le groupe est parti avec 12 des 19 membres de l'équipage qu'ils ont pris en otage samedi, indique le texte. Patrick Adamson, porte-parole de Maersk Shipping, a expliqué qu'il s'agit de la deuxième attaque de cette envergure cette année dans le delta du Niger, région pétrolière au sud-ouest du Nigeria. Habituellement, les pirates ne donnent aucune nouvelle pendant les premières 48 heures de l'enlèvement, donc nous attendons d'avoir des nouvelles, souligne M. Adamson, qui précise que pour la sécurité des otages et le respect des familles, ni leur nationalité, ni leur identité ne seraient dévoilées. Alors que la situation s'est apaisée dans le golfe d'Aden, à l'est du continent au large de la Somalie, c'est désormais le golfe de Guinée, avec ses 5700 km de côte, qui est devenu le nouvel épicentre de la piraterie maritime en Afrique. Plus de 60 membres d'équipage au total ont été enlevés en 2017 au large du Nigeria.
Au Kenya, un violent affrontement ce lundi entre l'armée et des militants du groupe djihadiste somalien Shebab dans le comté de Lamu sur la côte de l'océan Indien dans l'est du pays. Bilan, 10 militants Shebab tués et 3 soldats kenyans blessés. Selon Nairobi, la fréquence et l'importance des incursions des Shebab au Kenya est en nette diminution ces 6 derniers mois. En RDC, journée sans activité ce lundi à Beni, province du Nord Kivu, dans l'est du pays, et ce, après le massacre d'au moins 18 personnes dans cette ville samedi dernier. Une tuerie attribuée aux rebelles islamistes ougandais des ADF, les forces démocratiques alliées. Un compte-rendu de ces violences avec Charlie Kasereka, le correspondant sur place de VOA Afrique, et il se trouve à Goma, chef-lieu du Nord Kivu.
Des 18h jusqu'aux environs de minuit samedi, des détonations d'armes lourdes et légères étaient entendues selon les témoignages recoupés par VOA Afrique dans la ville de Beni. L'attaque visait un camp militaire se trouvant dans les quartiers Païda à l'est de la ville. Dans ces échanges de tirs d'environ 6 heures, l'armée congolaise mentionne un bilan d'au moins 18 personnes tuées, parmi lesquelles 4 militaires et 8 blessés qui suivent les soins à l'hôpital de Beni. Les bilans seraient encore plus lourds selon la société civile locale qui signale aussi des personnes disparues dans la foulée plusieurs dégâts matériels sont aussi signalés, des maisons incendiées, véhicules et motocyclettes calcinées par les assaillants avant de se volatiliser dans la nature. L'un des responsables de la société civile, contacté par VOA Afrique, présente ses inquiétudes suite à cette attaque menée cette fois-ci en plein centre-ville de Beni, ajoutant d'ailleurs que la journée de ce lundi est décrétée journée sans activité pour compatir avec les familles éprouvées par ces derniers massacres. Charlie Kassereka, Goma, pour VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Cameroun, l'Union africaine vient de terminer à Douala, la métropole économique du pays, 8 jours d'exercice post-commandement, baptisé IMDAD Africa 1. L'exercice consistait à tester les processus de soutien aux futures missions de l'organisation panafricaine. Il s'agissait notamment de planifier un éventuel déploiement rapide d'une opération de soutien à la paix mandatée par l'Union africaine. Le correspondant de VOA Afrique au Cameroun, Emmanuel Jules Ntap, a suivi ce tout premier exercice de soutien logistique de l'Union africaine. Son reportage.
L'Union africaine se dit désormais confiante. En cas de crise dans un pays africain, le transport rapide de sa logistique depuis la base continentale de Douala se fera dans les délais requis. Lieutenant-colonel Moussavou de l'armée gabonaise, un participant à l'exercice de la force de l'Union africaine à Douala.
Sur la base de la simulation que nous avons eu à faire, l'exercice a été déployé en fait en deux temps. Il s'agissait d'abord d'une intervention rapide et juste après, on devait passer à la phase de stabilisation. En préparatif, en cas d'urgence, en une quinzaine de jours, le dispositif doit être mis en place.
Au cours d'une opération de soutien de la paix, il faut livrer aux troupes le matériel roulant ou encore apporter le soutien médical. Tout ceci obéit à certaines procédures acquises par les hauts gradés des armées africaines, des attachés de défense et commandants de guerre. Lors de ce tout premier exercice logistique, le général de division, Nakibus Lakara de l'Ouganda, directeur de la logistique lors de l'exercice post-commandement de l'Union africaine à Douala.
Après cet exercice, nous espérons que l'Union africaine prendra en compte les recommandations de cet exercice IMDAD Africa 1 et va les mettre en œuvre comme un fondement pour les exercices et opérations à venir.
Ces recommandations sont restées secret défense. Le haut commandement de l'Union africaine dit cependant être prêt pour les missions à venir. Le colonel Morso du Sénégal, coordonnateur de l'exercice post-commandement de l'Union africaine à Douala.
Les objectifs ont été largement atteints. Il s'agissait de tester et de valider les procédures de soutien de nos missions, les missions de l'Union africaine, de manière à pouvoir mettre en place tout le soutien nécessaire pour que nos missions soient effectivement et d'une façon efficiente soutenues sur le plan logistique.
L'aspect administratif des procédures d'intervention de l'UIA a également été revisité pendant les 8 jours passés à Douala, avec au bout une meilleure appropriation par les participants. Alemu Koumneguer, chef unité logistique à la Commission de l'Union africaine, croit que l'essentiel a été fait.
Cette formation les rendra davantage prêts parce que certaines choses qui se faisaient avant n'étaient pas en droite ligne avec les procédures que l'Union africaine exige d'eux. Maintenant, cette formation a renforcé leurs capacités et les rendra davantage prêts.
Aucune annonce n'a été faite sur le prochain exercice militaire des troupes de l'Union africaine. L'unique du genre s'est tenu en Afrique du Sud en 2015. Emmanuel Jumtap, de retour de Douala, VOA Afrique.
En RCA, plusieurs quartiers de Bangui frappés par de fortes inondations. De nombreuses familles sont sans abri après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale et ses environs hier. Le point avec le correspondant de VOA Afrique à Bangui, Freeman Sipila.
Les secteurs les plus touchés sont les 5e, 4e et 8e arrondissements. Les eaux ont non seulement englouti certaines avenues, mais aussi ravagé des centaines de maisons de commerce et d'habitations. Plusieurs sinistres pointent du doigt un manque de canalisation dans leur quartier et l'indifférence des autorités de Bangui face à leur situation. Pour exprimer leur colère, une dizaine de mécontents, torse nus, shorts et pantalons trempés, ont barricadé une partie de l'avenue de la paix dans le 5e arrondissement.
Le problème d'inondation qui a amené quand on a barré la route, ça fait 2 ou 3 mois. On est souffré ici, à la cause d'inondation. Toute la maison est tombée avec les enfants dedans. Donc c'est pour cela qu'on a barricadé la route. Il y a l'eau, ça coulait la maison pratiquement. C'est pour cela qu'on a barré la route.
Les dégâts sont aussi énormes dans le 4e arrondissement, précisément dans les localités longeant le canal Ngoubagara. Jusqu'à ce lundi matin, aucun bilan exact n'était encore disponible, car de nombreuses familles s'attendaient au pire avec leurs habitations coincées au milieu des eaux. De leur côté, les autorités de Bangui n'ont pas encore officiellement réagi à cette catastrophe qui n'en est pas à son premier dégât dans la capitale. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.